Bonjour et bienvenue dans Tap 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 qui est là, podcast aujourd'hui présenté par Élise Roger et Marie Bernanos, enseignante-chercheuse spécialiste de théâtre jeunesse et présidente de l'association Théâtre à la Page. Bonjour Marie.
Bonjour Élise.
Nous sommes sur Radio Campus, la 90.8, pour vous parler de théâtre et d'œuvres écrites pour la jeunesse. Pour cette nouvelle émission, nous recevons pas une mais deux invités, Marie Astier de la Compagnie en Carton, qui a écrit sa thèse sur la présence du handicap sur les scènes de théâtre, et Catherine Hargreaves, entre autres metteuse en scène du spectacle Back to Reality, qui a été créé à la MC2 le 5 mars dernier. Vous y parlez de la trisomie de votre sœur, du rapport à la différence, du statut du handicap, de la famille, de plein de choses dont on pourra discuter dans cet entretien.
Tout de suite, les questions, les réponses.
Marie Astier et Catherine Hargreaves sont avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors Marie.
Alors, comme l'évoquait Élise en vous présentant rapidement, on va rentrer un petit peu dans votre parcours à toutes les deux. On va commencer par Marie Astier, dont Élise disait qu'elle a fait une thèse, et c'est comme ça que je l'ai découverte d'ailleurs, dans le cadre d'un travail de recherche sur le rapport au handicap dans les écritures jeunesse. Et donc, une thèse consacrée à la place du handicap mental sur les scènes. Donc voilà, Marie, j'ai envie de t'interroger sur, d'abord, comment tu en es arrivée au théâtre ? Comment c'est venu, cette histoire ? C'est toujours une belle question. Nous avons eu récemment un entretien avec une autrice, Sophie Merceron, qui nous disait combien son entrée dans le théâtre était venue d'un énorme mensonge. Elle a prétendu faire du théâtre alors qu'elle n'en faisait pas. Et du coup, elle s'est obligée à respecter le mensonge qui lui était venu. Donc, toi, Marie, comment est venue cette entrée dans le théâtre ?
Moi, j'ai fait du théâtre comme activité extrascolaire. Je crois que j'ai commencé en CP et ça m'a beaucoup plu et j'ai pas arrêté en fait, tout simplement. Il y en a qui faisaient de la danse, des échecs et moi c'était le théâtre.
Et le parcours qui a suivi ?
Et après, alors j'aimais tellement ça que j'aurais voulu intégrer une école de théâtre après le bac. Mais mes parents, ils ne viennent pas du tout du milieu artistique. Ils ont tous les deux fait des écoles de commerce. Donc, pour eux, c'était un peu hors de question que je fasse du théâtre après le bac. Et déjà, je voulais faire L et ils ont voulu que je fasse S. Et la négociation a été que je fasse ES. Et après, ils voulaient absolument que je fasse une prépa. Donc, pareil, tout a été histoire de négociation. J'ai accepté de faire une prépa, mais une prépa littéraire. Et la condition absolue, c'était qu'il y ait une option théâtre. C'est sûr qu'avant, j'allais au théâtre en tant que spectatrice, mais pas assidûment. Et vraiment, en prépa, pendant 3 ans, j'y allais au moins une fois par semaine. Et là, c'était vraiment génial. Je me suis rendu compte que j'aimais autant être au plateau qu'être dans la salle. Et après, quand j'ai raté le concours de l'ENS 2 fois, mais je suis rentrée à l'ENS sur dossier. Et c'est là où j'ai découvert ma troisième casquette, on va dire, qui est qu'on pouvait faire de la recherche en art du spectacle. Je ne savais pas, je ne connaissais même pas ce que c'était qu'une thèse. Alors une thèse en théâtre, encore moins. Et en fait, quand j'ai voulu intégrer Normal Sup sur dossier, ils demandent un projet de recherche. Et je trouve ça vraiment difficile parce qu'en prépa, pendant 3 ans, on engrange beaucoup de connaissances, mais on ne se questionne pas sur ce qui nous intéresse. Et c'est là où j'ai réfléchi, mais vraiment de façon très sincère, sur ce qui m'intéressait dans la vie. Et voilà, le théâtre, aussi bien en faire qu'en voir, ça me plaisait beaucoup. Et la question de la différence, du handicap, de la maladie, c'était des choses qui me questionnaient dans ma vie de tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai proposé de croiser les deux et de voir qu'est-ce que ça fait si on croise théâtre et handicap. Et c'est comme ça que je me suis lancée d'abord en master, puis en doctorat, j'allais dire l'abordage, puis l'approfondissement de ces thématiques-là.
J'ai eu l'occasion de regarder une vidéo dans laquelle tu présentais ton travail de chercheur comme si c'était une espèce de course au trésor ou de grande aventure. Je ne sais pas si c'est toujours en ligne, mais j'invite les auditeurs et auditrices, jeunes ou enseignants ou autres personnes intéressées par le théâtre à aller chercher cette vidéo parce qu'elle était très drôle. Un rapport très ludique à la recherche, ce qu'on n'a pas toujours tendance à faire, disons. Mais oui, c'est une quête.
Je pense que c'était ma thèse en 180 secondes. Et en fait, je trouve ça assez rare, les personnes en sciences humaines qui participent à ça, parce que souvent, c'est un exercice de vulgarisation dont oui. s'emparent beaucoup les chercheurs en sciences dures. Et je trouve que ce n'est pas du tout le même exercice. C'est-à-dire que l'exercice pour, par exemple, des personnes qui font des thèses en maths, c'est de simplifier les choses. Et je trouve que pour les personnes qui font des thèses en sciences humaines, c'est de montrer que derrière une démarche qui peut paraître simple, quand même pour étudier ces questions, c'est vraiment de la recherche dans le sens où il faut mobiliser des outils spécifiques et c'est pas si simple que ça peut sembler être au premier abord.
Oui, tout à fait. Alors, la même question pour Catherine. Donc, comment est venue l'entrée dans le théâtre, dans votre vie? Comment ça s'est passé?
Moi, je crois que c'est tout simplement l'amour du jeu, de faire des bêtises. En fait, avec mes sœurs, quand on était petites, on s'amusait à faire des spectacles, comme beaucoup d'enfants, en fait, pour les parents d'abord. Et puis après, j'aimais vraiment me mettre dans des situations très bêtes et faire rigoler juste la famille, faire semblant de sauter par la fenêtre, se déguiser, etc. Et puis un jour, j'ai reçu j'étais abonnée à un... C'est très clair ce moment-là, mais j'étais abonnée à un magazine qui s'appelait Fripounet et que je recevais, je pense, tous les mois ou toutes les deux semaines. Et dessus, il y avait un petit encart dans l'un des magazines qui disait que... Il y avait des gens qui faisaient un truc qui s'appelait une activité théâtre et qu'ils faisaient semblant d'être des abeilles. Et je me suis dit, chouette, j'aimerais bien faire ça. Et du coup, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au théâtre. Au théâtre municipal, tout simplement, j'allais au cours de théâtre. Et là, j'ai découvert, c'était quelqu'un qui nous faisait faire beaucoup de théâtre classique, mais j'aimais bien. Racine, je me souviens, tous les auteurs classiques. Et... cette prof a voulu que je monte à Paris tout de suite pour préparer une entrée au conservatoire, mais j'étais en troisième à l'époque, mes parents venaient pas du théâtre, moi j'avais pas du tout, je pensais pas en termes d'en faire mon métier ou etc, c'était juste pour m'amuser, donc on a refusé cette montée à Paris un peu précoce. Et puis quand je suis montée à Paris pour mes études, comme Marie, la découverte de ce que c'était qu'être spectatrice et d'aller à des spectacles et du coup voir les autres jouer sur scène me donnait vraiment envie de faire ça aussi, de continuer. Donc j'ai été acceptée à l'école de Chaillot. Et puis, j'ai préparé les concours en parallèle de mes études, qui étaient des études en prépa, mais que je ne faisais pas sérieusement. Je faisais des stages aussi sur des tournages ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Et j'ai passé les concours nationaux plusieurs fois et j'ai fini par être acceptée à l'ANSAT ou en jeu. Donc, voilà, où j'ai fait 3 ans de jeu là-bas. Et puis, la mise en scène est venue plus tard. Mais je crois que ça vient vraiment du fait d'adorer de faire des surprises, en fait. Je pense à la mise en scène comme préparer une surprise à quelqu'un.
Voilà. Ah, c'est intéressant comme définition. Je pense là, en vous écoutant toutes les deux, aux jeunes dans les classes qui nous écouteront peut-être, puisque cet entretien sera accessible en podcast, j'imagine ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant de quatrième ou plus jeune ou plus grand. À écouter vos parcours, je trouve que c'est une belle leçon d'optimisme et d'ouverture vers l'avenir qu'on ne maîtrise pas nécessairement et en même temps on répond quand même à quelque chose qui nous fabrique. Mais bon, c'est sans doute un mélange compliqué, mais en même temps ça paraît simple à vous écouter. Donc voilà, un petit message aux enfants qui écouteront tout ça. Alors, pourquoi est-ce que nous vous avons réunis toutes les deux? Donc, il se trouve que donc moi, j'ai lu le travail de thèse de Marie. Elle fait partie du comité de lecture de Théâtre à la page. Et puis, je l'ai vue jouer dans Hors de moi, l'adaptation d'un roman, enfin, un roman, en tout cas, une œuvre d'une philosophe, Claire Marin, qui a aussi publié d'autres choses dont on a parlé ces derniers temps. Et puis après, je l'ai vue à l'UGA pour les chroniques qu'elle présente et pour lesquelles elle était en résidence à l'université. Et puis, Catherine, moi, c'était la découverte de Back to Reality, donc à la MC2, dont parlait Élise tout à l'heure. Et j'ai été frappée en pensant à vous deux, et ça m'est venu très vite. J'ai vraiment eu envie de vous réunir parce que il me semble qu'il y a vraiment deux questions au cœur de vos deux parcours. Vous ne vous connaissiez pas vraiment, mais juste un petit peu. Vous voulez nous dire comment vous vous êtes connus?
C'est surtout, tu connais Adèle, non, Marie, surtout?
Oui. Voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais. Bah, c'était marrant, c'était elle m'a très vite parlé de toi parce que c'était au collectif 12. On avait fait des états généraux et on s'était retrouvés dans le même groupe. Et au moment où on doit être deux par deux, bah, on s'était retrouvés ensemble. Et je ne sais plus comment on s'était mis à parler du lien entre théâtre et handicap. Ouais. Et voilà.
C'est ça.
Oui, donc au-delà de cette petite proximité, mais quand même pas si grande que ça, moi, ce qui m'a frappé en pensant à vos deux démarches, c'est qu'il y a deux choses importantes qui vous rejoignent et qui me semblent liées l'une à l'autre. Et c'est là-dessus que j'ai envie que vous nous expliquiez un peu comment vous percevez ça. J'ai vu un rapport très fort entre la démarche autobiographique qui est au cœur. Alors là, je ne parle pas de tout votre travail à l'une et à l'autre, mais les chroniques d'un côté pour Marie et Back to Reality pour Catherine. Donc, à la fois la démarche autobiographique et le rapport au handicap. Et comment ces deux envies-là, ces deux besoins aussi, sans doute, se sont croisés dans votre travail respectif. Donc, est-ce que, Catherine, le tutoiement me vient, donc je vais continuer, puisque là, on se tutoie, on va le faire naturellement. Donc, comment est-ce que tu en es venue à mêler, et est-ce que c'était déjà présent dans ton travail avant? Et comment ça s'est entremêlé?
C'est un peu difficile d'en parler dans un sens où c'est pas si calculé que ça. Enfin, c'est pas préparé. Enfin, c'est des envies, des idées de spectacle qui arrivent. Et après, on se rend compte que ça parle de certains sujets. Mais je me dis pas, je vais faire un spectacle sur un sujet ou je vais faire un spectacle autobiographique. Mais on peut quand même dire qu'effectivement, mon activité de metteuse en scène se divise en deux parties. Le fait de monter des textes écrits par d'autres et mes propres créations qui, pour le coup, sont partent de ma matière personnelle, de mon vécu. Je dirais que Back to Reality est un spectacle qui clôt une trilogie qui se voulait pas du tout trilogie, mais qui a commencé avec un spectacle en 2010 qui s'appelle Dead Woman Laughing, qui commençait avec la mort de ma grand-mère et qui parlait du rapport à la mort. Qu'ensuite, il y a eu un autre spectacle qui s'appelle Autonomie, la défaite. Donc, c'était une réflexion sur mon rapport à la politique par rapport à ce que c'est que l'autonomie politique. Et en parlant d'autonomie politique, j'ai dû définir ce que c'était que l'autonomie et je me suis rendu compte que ma sœur, ma grande sœur qui était porteuse de trisomie, était une définition de l'autonomie qu'on pouvait donner, une autre définition qui n'est pas dans les dictionnaires. Et donc Rachel faisait partie de ce spectacle, elle finissait ce spectacle pour dire je vais vous montrer l'autonomie sous un autre angle qui n'est pas envisagé par la société, justement. Et après, il y a eu ce dernier spectacle. Donc, ça, c'était de plus en plus biographique, puisque ce deuxième spectacle aussi parlait de mon rapport au voyage et de mon rapport à comment était ma propre recherche d'autonomie dans ma vie personnelle par le voyage et la rencontre. Et le troisième spectacle s'est imposé à moi tout simplement parce que la fin de vie de Rachel a été très difficile et que j'étais persuadée qu'il fallait le raconter. Mais après, c'est comme, enfin voilà, quand j'écris, je dis pas que je suis autrice de théâtre comme Adèle, qui elle écrit des pièces avec qui je travaille. J'écris plus des spectacles et je pars de ce que je connais le plus. Donc les gens vont dire que c'est autobiographique, mais je me dis pas, tiens, je vais faire des spectacles sur Catherine Hargreaves. Voilà. Je vais juste essayer, comme ce que je recherche, c'est l'authenticité. Eh ben, ce que je vais creuser, c'est moi, en fait. Par rapport à mon vécu, je vais réinterroger mon vécu, je vais le questionner. Et c'est comme ça que je vais être le plus proche de l'authenticité. Et je pense que c'est pas une démarche pour, on va dire, égocentrique. C'est juste une démarche de, bah, plutôt d'essayer d'être la plus exigeante possible par rapport au fait de partager avec un public ce que je sais et comment je l'interroge, en fait. Et en l'occurrence, ce dernier spectacle, on peut dire, bah, bien sûr, il est autobiographique, mais il a été complètement coécrit avec Adèle et co-mis en scène. Et c'est pas sa vie du tout. Elle a connu Rachel juste
Oui.
à la toute fin. Donc,
Donc c'est y
Adèle
a un
s'est
grand travail de
emparée de ce que je
fiction.
lui racontais sur ma vie, mais on en a fait une fiction ensemble, même si, bien sûr, 70%, enfin même 100% de ce que je raconte est vrai dans ce spectacle, même si la vérité, j'ai joué avec pour qu'elle soit accessible au public. Ouais, je réfléchis pas en termes d'autobiographie, je réfléchis en termes d'authenticité, voilà, et de vérité.
Est-ce que ce serait possible
Un
de,
mot.
pour donner une idée aux personnes qui écouteront cet échange, de présenter un peu la manière dont le spectacle fonctionne et puis aussi la présence du comédien anglais
Ouais.
qui a été intégré
En fait, en faisant ce spectacle, j'ai beaucoup questionné la légitimité de faire ce spectacle. Parce que je me rendais compte qu'en fait, je voulais raconter quelque chose sur Rachel, donc ma grande sœur, et sur cette fin de vie et comment la société et le milieu hospitalier n'étaient pas du tout réparés pour accueillir les fins de vie des personnes en situation de handicap. Ça, c'était le point de départ. Mais en faisant ça, je me suis dit, mais je ne peux pas aborder le handicap dans un spectacle juste sous cet angle-là, parce que ça va donner une fausse image de, en tout cas, mon vécu du handicap en tant qu'accompagnante, qui est un vécu à 90% joyeux, et qu'il y a eu juste cette fin de vie qui a duré 3 ans qui a été horrible. Donc, il y a eu ce premier questionnement. Et le deuxième questionnement était, c'est pour ça que ça a pris 7 ans pour écrire ce spectacle et trouver la forme, était sur le fait mais ce refus absolu, justement, de vouloir donner une version claire et possible par rapport au handicap. C'est-à-dire, enfin, parler du handicap, pour moi, ça veut rien dire, en fait. C'est un spectacle sur ma sœur, c'est un spectacle sur une personne, et c'est un spectacle sur la sororité. Le handicap est aussi divers que les personnes qui sont porteuses de handicap. Et donc, du coup, si tout d'un coup je dis je fais un spectacle sur le handicap et voici ma version de ce que c'est que le handicap, je dis, mais enfin, si ça termine comme ça, ce spectacle, c'est l'horreur. Je veux pas que ça soit ça.
Ah, ce n'est pas du
Donc,
tout ce qu'on ressent, hein,
ouais,
quand on
donc
en
ce qu'on a
ressort.
trouvé
Hein,
avec
ouais.
Adèle, et c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans un autre spectacle, c'était, bah, de mettre toutes ces questions sur le plateau, c'est-à-dire que le public voit Adèle et moi en train de construire ce spectacle et en train de se dire, on va prendre une piste. Ah ben non, on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette piste, on va en prendre une autre. Et de tout le temps faire des angles droits, et quitte à vouloir même perdre le spectateur, comme moi, je me suis perdue dans tous ces questionnements. Et justement, d'essayer de donner une rencontre au spectateur avec ce monde, cet univers qui est le mien, cette sororité-là, et pas une version, comme je disais, du handicap, ou une version de ce que c'est qu'une sororie avec une sœur porteuse de handicap. Donc, enfin voilà, c'est très difficile, comme là j'en parle, c'est très difficile d'être très clair, justement, parce que je refuse la clarté sur tout ça. Et l'autre chose, bien sûr, c'est comment, enfin, moi, je ne peux pas parler du handicap, je ne suis pas porteuse de handicap. Enfin voilà, je peux parler de mon expérience en tant que sœur, mais le handicap, je le vis pas dans ma chair, je le vis pas dans. Donc j'en ai aucune idée, en fait. Donc c'était aussi de surtout pas prendre cette parole-là Et je ne voulais pas justement avoir de personnes porteuses de handicap sur le plateau pour ce spectacle, parce que je ne voulais pas qu'on se dise, tiens, elle a pris un comédien porteur de handicap pour remplacer Rachel ou pour être une caution d'un spectacle qui parlerait de handicap, etc. Donc je ne voulais pas tomber là-dessus. Et lors de mes recherches pour ce spectacle, j'ai vu plusieurs comédiens porteurs de handicap, je les trouvais super. Et puis tout d'un coup, il y a ce George Webster qui arrivait sur scène et j'ai eu un coup de foudre de metteuse en scène pour ce comédien. J'ai vraiment aimé son jeu, j'ai vraiment aimé qui il était, j'ai vraiment aimé ce qu'il dégageait, j'ai discuté avec lui et donc je l'ai engagé tout de suite. Enfin, toutes mes questions que je me posais, je me suis dit, ah, mais il faut qu'il fasse ce spectacle juste parce que. Il exprimait sur le plateau exactement ce que je voulais exprimer par rapport à cette sororie, par rapport à un certain aspect. Donc je lui ai demandé, et après je me suis dit, oh merde, enfin voilà, j'ai pris un comédien porteur de trisomie. Et donc tout le travail d'écriture a aussi été de faire extrêmement attention à ce qu'on ne se dise pas, que Georges était là pour prendre la place de Rachel. Et donc c'est pour ça qu'on a écrit des scènes où lui aussi discute de ce que c'est que ce spectacle, de comment il faudrait le faire. Et quand on et il y a des petites scénettes aussi où on demande aux comédiens de jouer Rachel, mais c'est jamais la même personne qui le fait. Des fois c'est lui, des fois c'est François, des fois c'est moi, etc. Donc ça tourne.
Moi, j'ai trouvé ça,
Voilà.
j'ai trouvé
Voilà.
cette façon justement de diffracter le rapport aux questions posées. J'ai trouvé ça complètement jouissif. Et en plus, ce comédien, il est étonnant. Il
Ah mais c'est un
dégage.
excellent comédien.
Ah oui, il dégage d'abord une joie de vivre personnelle fabuleuse. Et puis, c'est un excellent comédien. Enfin, moi, je me souviens
Non,
de.
c'est un très bon danseur, un
Ah
très bon
oui.
comédien. Et il a participé avec nous à toutes les discussions sur ce qu'on devait, comment écrire ce spectacle, etc. Il a été très supportif aussi. Enfin, on a eu des discussions aussi sur Rachel, sur ce que c'était que de perdre quelqu'un, ce que ça voulait dire. Il a été. Non, non, et puis bon, il s'est vraiment très, très bien entendu avec les deux autres comédiens, qui sont tous les trois une vraie bande dans la vie aussi, quoi. C'est vraiment trois copains, quoi.
Et ça se sent, le spectateur y ressent ça. Moi, je suis
Ouais.
ressortie de ce spectacle en me disant, mais vraiment, ça donne une forme d'énergie vitale. Et c'est un bonheur quand on ressent ça au sortir d'un spectacle. Enfin, je le dis très sincèrement. Merci, Catherine, pour cette explication. Alors, Marie, un petit peu les mêmes questions, même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment s'est construite ton envie des chroniques, et dont tu vas pouvoir expliquer le principe, bien sûr, et comment ça s'est retrouvé lié à ta vie et à une forme de récit de ta vie?
Oui, je vais répondre à la question, mais juste avant.
Oui.
Et c'est fou, j'ai pas encore vu, pas encore vu Back to Reality, mais dans ce que tu dis, Catherine, il y a vraiment plein. Enfin, je pense qu'on en reparlera après, mais dans la construction, il y a plein de choses qui font écho. Moi, l'envie d'écrire et de monter chronique, c'était bah, justement après Hors de moi, donc qui est, comme tu le disais, Marie, au début, qui est une adaptation d'un ouvrage de Claire Marin qui m'avait beaucoup plu. J'ai adoré faire ce spectacle, mais là où j'ai été un peu, je cherche le bon mot, pas satisfaite, pas entièrement satisfaite, c'est que compte tenu de la théâtralité, c'est-à-dire que c'est quand même assez violent et il y a un moment de semi-nudité, et compte tenu des mots employés, puisque c'est quand même adapté d'un texte philosophique, donc il y a des mots assez compliqués, c'était un spectacle qui était pas tellement accessible pour un public en dessous de 15 ans et je trouvais ça dommage. Et aussi, c'était très très fort comme spectacle, mais les gens parfois, les spectateurs, spectatrices, repartaient assez chamboulés sans avoir vraiment le temps de discuter. Et du coup, c'est comme ça, déjà, c'est comme ça que j'ai osé prendre la plume, puisque Hors de moi, c'était une adaptation d'un texte de Claire Marin qui me parlait énormément, à tel point qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression, même si c'est absolument pas le cas, que c'est moi qui avais écrit le texte, tellement je l'avais incorporé, tellement c'était lié à des choses qui me parlaient. Mais grâce à Hors de moi, j'ai osé prendre la plume pour raconter ma propre histoire, et selon une théâtralité différente, puisque très vite, j'avais envie de faire un spectacle par épisode. par épisode de 40 minutes pour justement que ça soit accessible et même pensé pour un public qui peut être un public scolaire, avec une forme extrêmement légère où on peut aller dans les classes, faire 40 minutes de spectacle et ensuite au moins un bord-plateau, mais même sinon j'ai pensé tout un parcours de AC autour de ces questions-là, avec l'idée que voir quelqu'un 4 fois, c'est pas du tout la même chose que voir quelqu'un 1 fois. Et pour moi, c'était très important. Et même parfois, quand dans la même soirée, dans le cadre de programmation en théâtre, on joue 2 épisodes à la suite, parce que du coup, ça fait 1h20, on laisse toujours un petit temps d'entracte, même si nous, on n'a pas besoin, mais juste pour que les gens puissent souffler, échanger entre eux. On fait même parfois des mini-bords-plateaux entre les 2 épisodes, juste pour qu'on discute. Moi, j'avais vraiment envie que ça soit un spectacle qui crée de la discussion à partir de ce que je propose. Et l'idée, bah, un peu comme ce que disait Catherine, moi je l'ai moins pensé comme de l'autobiographie, même si bien sûr je l'ai pensé comme de l'authenticité aussi, parce que ça sera des choses très, très sincères. Et nous, on a fait un travail où on est allé chercher des archives, et donc ça atteste du côté autobiographique, mais on joue beaucoup avec et on le prend de façon très ludique sur comment on peut s'en amuser. Et on a le même, ce que tu disais par rapport à Adèle, moi c'est vrai avec Ulysse Caillon, qui est le dramaturge avec qui j'ai travaillé et qui joue le personnage de Régis, puisqu'il est aussi régisseur sur le plateau. Mais pareil, comme pour Back to Reality, enfin je sais pas si c'est exactement pareil, mais en tout cas, on montre le spectacle en train de se faire, on montre les questions qu'on se pose, et on sort du jeu, et on re-rentre dans le jeu tout le temps pour prendre de la distance et qu'on n'oublie jamais que c'est, voilà, que c'est aussi un jeu. Je repasse de mon statut de comédienne, conceptrice du spectacle, à moi qui joue différents personnages à différentes époques, quoi. Et par rapport au handicap, je pense que donc, du coup, ça suit mon parcours de vie. Et c'était aussi une façon d'oser admettre qu'on ne choisit jamais son sujet de thèse par hasard. Et que je pense que si j'avais choisi, enfin, si j'ai choisi de travailler sur le handicap mental, c'est parce qu'il y a la question de la visibilité qui se pose et que donc moi je vis avec une maladie chronique et il y a aussi cette question de la visibilité de la maladie et je me suis souvenue enfin que ben voilà quand j'ai passé le bac j'avais un tiers-temps pour le bac du coup c'est être reconnu comme étudiant handicapé du coup j'interroge aussi ce lien entre mon travail de chercheuse et mon travail de comédienne et voilà et pour une fin, je crois que c'est un spectacle avec lequel j'ose me poser cette question d'artiste-chercheur et voilà, la question du handicap n'est pas aussi éloignée que ce que j'ai pu prétendre dans un premier temps, peut-être pour me protéger, quoi. C'était aussi pour des questions assez intimes que j'étais allée creuser ces questions-là.
Oui, alors c'est peut-être
Voilà.
intéressant d'ajouter quelque chose à cette belle réflexion que peut-être ceux qui nous écouteront ne savent pas. C'est développé depuis un certain nombre d'années, encore plus dans les cultures anglo-saxonnes, des modes de recherche qu'on appelle de la recherche-création. Je pense à Suzanne Lebeau, par exemple, qui a un certain âge déjà avancé de sa vie et en forme presque de condensé de toute sa carrière et d'autrice et de femme de théâtre. Elle a réalisé une thèse, c'est-à-dire une recherche sur son propre travail. Et en te voyant, en voyant ton travail, Marie, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait un rapport à ça dans ta démarche, c'est-à-dire que je ne peux pas ne pas penser que le travail de recherche que tu as fait nourrit ton travail de création et que sans doute si tu devais réécrire ta thèse par grand bonheur, je fais de l'ironie, mais et en même temps, si, il y a du bonheur à écrire une thèse. En tout cas, si tu devais la reprendre, il y a des choses que tu modifierais aujourd'hui du fait de ton travail de création.
Mais tout à fait. Et d'ailleurs, à l'Université de Grenoble, on a eu une semaine de résidence en recherche-création. Et
Oui.
avec Ulysse, on a écrit un article à deux mains, parce qu'on écrit chacun avec une main, autour, donc un article de recherche, autour de la question de l'archive, justement, dans le théâtre contemporain. Et nous, on a vraiment pris notre création comme objet comme sujet de recherche. Et on a écrit un article universitaire sur notre propre création, quoi.
Oui.
Et on ose, dans le spectacle, on rigole aussi de notre position de chercheur et parfois de comédien. Enfin, on se met en scène aussi un peu comme ça. Le dispositif, on a une table avec plein de bouquins aussi pour montrer que voilà, on peut avoir tendance peut-être à
Oui.
surréfléchir à ce qu'on fait,
Et
quoi.
pour faire le retourner au lien entre vous deux, de toute façon, la création d'un travail de mise en scène, comme Catherine le disait, j'écris des spectacles, c'est une forme de recherche aussi, et il ne faut pas trop séparer, enfin moi c'est quelque chose qui m'exaspère parfois, trop séparer la recherche conçue comme quelque chose d'intellectuel et la recherche conçue comme quelque chose de sensible, les deux évidemment se mêlent. Et c'est important de le concevoir et que ça ne fasse pas peur. Alors, je repasse la parole à Élise.
Merci. On va pouvoir écouter une partie des chroniques que vous avez enregistrées à l'UGA en octobre 2023. On vous propose d'écouter l'épisode 1. C'était pas prévu.
Le théâtre, ça s'écoute?
Tu veux pas?
Abide, abode, respecter, se conformer à.
Forbid.
Quoi?
Forbid.
Ah, to forbid. Forbade, forbidden. Attends, me dis pas. Interdire.
Forget.
Forgotten. Oublier est. Tu sais quoi? Il paraît que la prof d'anglais sort avec Monsieur le Bélour. Ouais.
Le cours d'histoire des 4e années.
Ouais.
Oui. C'est trop un bolos, ce mec.
Ouais.
Tu vois pas du tout ensemble.
Non. Pas comme Chloé et Maximo.
What?
Non. T'es pas au courant, meuf. Eh ben, à la boucle de Marine Hoffman, ils ont joué à la bouteille. Et ils ont dû se smaquer. Mais apparemment, 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 ils attendaient que ça. Parce qu'après, ils se sont carrément emballés. Et pendant toute la soirée, là, ils sont restés collés, impossible de
les
séparer.
Mais genre comme Lona et Jean-Edouard dans la piscine, quoi.
Quoi?
Tu regardes pas le stop?
Pardon, mais on l'a vu en anglais, on dit Love Story.
Love Story sur la 6?
Ah non, moi j'ai les chaînes normales, mais j'ai pas la 6.
Bah, non, mais tu... Non.
Non, bah oui, ça arrive, non.
Mais tu savais que tu peux pas regarder la trilogie du samedi soir, non?
Bah non, je peux pas regarder la trilogie du samedi soir non plus.
Ouais, la mort. Waouh. Mais pourquoi tu restes pas ce soir et on regarde chez moi, tu dors chez la maison.
Ouais, ça, bah, c'est super gentil, mais je peux pas en fait, je vais y aller. Ok? On se retrouve lundi pour l'intro d'anglais?
Ouais.
Bisous.
Bisous.
Non mais qu'est-ce qui lui prend? De me proposer comme ça, à l'improviste, de rester dîner et dormir chez elle? C'était pas prévu. Hein. À la base, le programme c'était shopping à Paris 2, manger au McDo et ensuite faire semblant de faire nos devoirs. Pourquoi est-ce qu'elle change les plans? Pourquoi est-ce qu'elle s'en tient pas à ce qui était prévu? Pourquoi est-ce qu'elle bouleverse l'ordre des choses? Moi j'aimerais trop dormir chez elle, mais je peux pas. Je peux pas parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc j'ai pas emporté mes médicaments de 19h30. Et j'ai pas non plus pris ceux de 1h30. C'est bon. Je peux me réveiller toute seule. Hein. Depuis qu'en CM2, je suis allée en classe verte avec Monsieur Lefko, on s'est entraîné avec mes parents, et maintenant j'ai plus besoin d'eux pour me réveiller. Mais je les ai pas emportés. Bah non. Je les ai pas emportés parce que c'était pas prévu. Et j'ai pas non plus emporté la piqûre d'hormones de croissance que je fais le soir avant de me coucher depuis pas très longtemps. Franchement, ça va. Hein. Elle prend pas beaucoup de place, elle fait la taille d'un stylo. Mais elle se garde au frais. Et c'était pas prévu. J'ai pas forget, forgot, forgotten. J'aurais pu hein, les emporter. Moi, je dois toujours abide, abode, abode au planning, aux contraintes. La spontanéité, ça m'est forbid, forbade, forbidden.
Vous êtes toujours sur la 90.8 dans Tap 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 qui est là et vous venez d'entendre la première partie de l'épisode 1 des chroniques enregistrée lors de représentation à l'UGA en octobre 2023 par Marie Astier.
Alors nous allons reprendre un peu notre échange et sur des questionnements qui peuvent nous emmener loin mais qui sont quand même vraiment intéressants. Moi je m'interroge beaucoup dans... Bon j'ai vu beaucoup de spectacles... Alors, parfois sur le handicap, mais ça, c'est une façon de le dire un peu, comment dire, qui témoigne du fait qu'à mon avis, c'était justement trop centré sur une démonstration. Et là, vous n'êtes pas du tout là-dedans, ni l'une ni l'autre. J'ai vu aussi des spectacles qui parlaient de handicap par la présence de comédiens handicapés sur le plateau, on l'évoquait. Et puis, il y a aussi des spectacles qui nous emmènent dans une forme de traversée du rapport au handicap. À Théâtre à la Page, notre sélection cette année, on l'a appelé le rapport au handicap. Il me semble que c'est plutôt là-dedans que nous sommes avec vos deux démarches. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-ce que se crée le détour de la forme artistique et aussi de la fiction, on l'a un peu évoqué, mais surtout de la forme artistique dans une démarche avec sa propre matière, d'une part. Comment vous pensez la différence entre ce travail-là et ce que vous avez eu l'occasion de faire quand le texte n'était pas lié à votre propre matière et quand ça n'était pas un engagement par rapport au vécu du handicap. Donc, on va peut-être continuer avec toi, Marie, et puis Catherine continuera, prendra la suite.
En plus, comme ça, je peux rebondir sur l'extrait qui vient d'être proposé.
Oui.
Je me suis posé la question de quoi parle le spectacle, en fait. Au-delà de parler de... Au début, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais raconter, ce que c'est que grandir avec une maladie chronique invisible. Et comment on le dit pas aux autres, quel regard les autres portent sur nous, etc. Ça, c'était le point de départ général. Et plus j'ai avancé dans l'écriture et la création, plus ça s'est précisé. Il y a eu la question de qu'est-ce que c'est grandir avec une maladie chronique invisible dans les années 90-2020. Et c'est pour ça que là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a vraiment la référence à la trilogie du samedi soir avec la référence à Love Story, parce que ça ancre dans une époque et ça montre que c'est pas parce qu'on est malade qu'on est complètement en dehors de la société. Et il y avait aussi tout le rapport à aller chercher l'information. C'est pas du tout la même chose. À un moment du spectacle, il y a moi, quand j'étais jeune et que je me connectais sur Internet, ça prenait le téléphone et on pouvait pas rester trop longtemps. On n'a pas du tout accès de la même façon à l'info. Donc il y a eu ça. Il y a eu ancré vraiment dans ces années-là. Et donc, on le sent tout de suite quand il y a des trentenaires dans la salle parce qu'ils rigolent aux références. Donc il y a aussi qu'est-ce que c'est que grandir dans les années 90-2020. Et après, petit à petit, il y avait cette idée de comment on vient tisser les fils entre la maladie et le théâtre. Et en fait, au-delà d'un travail d'archives, j'ai aussi fait un peu des... J'ai parlé avec ma famille. Et tout à l'heure, Marie, tu m'as demandé comment était venue mon envie de faire du théâtre. Et j'ai dit que j'avais commencé et qu'après, je n'avais jamais arrêté. Et en fait, en y réfléchissant... Alors bien sûr, on raconte l'histoire comme on veut, mais je pense que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que le théâtre, ça me permettait aussi de... C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais j'y crois beaucoup. Par des textes, vivre d'autres personnages, d'autres histoires. Première chose. Et deuxième chose, il y a aussi toute une famille qu'on retrouve, et c'était important pour moi. Et en parlant avec ma mère, elle m'a dit cette chose, et que je mets à la fin. Bon, désolé, je divulgage un peu, mais à la fin de la saison 1, elle me dit « Je ne sais pas si tu n'avais pas été malade, si j'aurais accepté que tu fasses du théâtre. » Elle dit « Voilà, je ne savais pas... c'est très mélo, mais tout va bien. Elle dit, je ne savais pas combien de temps tu avais à vivre. Et du coup, j'avais envie de t'accompagner là-dedans pour que tu puisses vivre ce que tu voulais vivre. Et waouh, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment mis une grosse claque. Et du coup, ça a réinterrogé mon rapport au théâtre et en lien avec la maladie. Et voilà, et j'ai oublié le début de la question.
Mais, oui, la question que je posais aussi, c'est comment tu penses... Le détour que représente la fiction dans ta démarche et aussi en comparant avec, par exemple, la participation au spectacle Hors de moi dont on parlait avant.
Eh bien, j'en suis que je prépare une saison 2 avec cette idée qu'en fait, j'admets que c'est l'histoire que moi, je me raconte. Mais comme n'importe enfin, que la réalité, ça n'existe pas et que c'est mon point de vue sur ce qui s'est passé, mais que le point de vue de ma mère, de mon père, des soignants, c'est pas le même et que de toute manière, c'est subjectif et que c'est ce que moi, je me suis raconté. Et en fait, ce qui était très intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, parce que à un moment, j'ai eu peur de m'enfermer dans l'étiquette théâtre et maladie, théâtre et handicap, aussi bien en thèse qu'avec les spectacles que je fais actuellement. Et je me suis dit, mais il y a plein d'artistes qui creusent comme ça un sillon, et pourquoi moi, j'accepterais pas de creuser ce sillon-là? Et qu'en fait, entre Hors de moi, par exemple, les chroniques, c'est deux théâtralités qui n'ont rien à voir. Et j'ai pas fini de creuser ce que j'avais à creuser. Et là, c'était vraiment d'être plus sur du jeune public et plus sur retrouver la façon dont je pensais quand j'étais jeune enfant, puis ado, puis jeune adulte. Et vraiment ce travail-là de se reconstruire, de repenser son rapport au monde et de se dire, attends, comment tu pensais, comment tu voyais, pour moi, ça crée un personnage et ça crée de la fiction aussi parce que bah, on se raconte tout le temps des histoires en fait. Et peut-être encore plus. Quand on est enfant. Par exemple, moi je me souviens très bien que quand ma montre sonnait quand j'étais à l'école, parce que je devais prendre des médicaments tous les 6 heures, et que ça sonnait à 1h30 de l'après-midi, je sortais et je parlais à ma montre, je disais, ouais chef, bien reçu, j'arrive. Et je me racontais toute une histoire juste pour aller prendre mes médicaments en bas chez la gardienne. Et donc il y avait déjà de la,
La
il y avait
fiction.
déjà de la fiction en fait.
Oui. Moi, ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans l'adresse à la jeunesse, volontaire ou involontaire. Il y a toujours une espèce de décentrement par rapport à soi dans un dialogue avec soi enfant. Et que c'est ça qui crée, en fait, l'adresse. C'est pour ça que je n'aime pas le mot pour, parce que je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pareil pour la question du sujet et de la thématique. Parler du handicap, c'est pas la même chose que se mettre dans une espèce de quête intérieure par rapport à ce qu'on a construit du rapport avec une personne handicapée ou plusieurs. Enfin, voilà, c'est ça n'est pas tout ça n'est jamais en ligne droite, quoi, en quelque sorte. Alors, Catherine, un petit peu le même questionnement. Autour de la question du détour, de comment se construit le détour de la forme artistique dans une forme de recherche de plateau et d'écriture qui fait intervenir la relation à l'enfance et la relation au handicap.
Désolée, mais j'arrive pas à attraper la question, en fait.
Alors, je vais la
J'arrive pas à
reformuler
comprendre la
autrement.
question.
Oui, mais c'est sûr que c'est des questions. Alors, je peux dire d'où ça vient, ça. C'est que on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur le fait qu'il y a énormément de spectacles qui sont plus ou moins affichés autobiographiques, mais qui, en tout cas, se nourrissent dans lesquels les personnes sur le plateau, y compris ceux qui ont créé le spectacle, qui l'ont construit, s'ancre dans un rapport avec soi. Et comment ce rapport avec soi peut-il favoriser ou empêcher, et comment on le vit, le rapport à la construction d'une fiction? Parce que c'est quelque chose qui peut paraître compliqué. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Et comment on construit la fiction, du coup?
Ben, c'est intéressant parce que c'est peut-être quelque part la base de toutes nos discussions avec Adèle parce que moi, dès le départ, je voulais que la fiction soit très présente. Adèle a poussé jusqu'au bout et elle a fini par quand même assez gagner sur le fait qu'il fallait que je me raconte quand même ce que je refusais. Et maintenant que le spectacle a été créé, bon, il va être repris, je me rends compte qu'il manque un petit peu de récit biographique de ma part. C'est une sensation que j'ai eue au plateau parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ça, c'est une première chose que je peux dire. Et que aussi, bah, très, enfin, après, c'est par rapport à ce spectacle, mais me rendant compte que j'embauchais Georges, qui était porteur de trisomie, je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. C'est quelqu'un qui adore la fiction, qui adore tout ce qui est la culture populaire. Et donc, c'était très important pour moi de le mettre dans des situations de jeu fictionnel, en fait. Voilà. Mais c'était très dur d'avoir cette envie de ma part très, très forte de mettre de la fiction, de mettre de la folie, culture populaire, série. issues de séries, etc., tout en mélangeant ça avec le côté personnel. Donc c'était notre travail, c'était comment mélanger ces deux choses. Comment la faire advenir? Est-ce que ça devait être fictionnel du début jusqu'à la fin? Après, il y a eu cette idée que de plus en plus, on terminerait par... Enfin, il y a la fiction qui finirait par envahir le spectacle et le spectacle deviendrait une fiction. Et on n'a pas réussi à faire ça, mais on en parle parce que ça finit quand même par une voix enregistrée où je m'adresse à Rachel. Donc ça finit par quelque chose de biographique. Mais après, enfin, je pense que je connecte pas mal avec ce que Marie a dit sur le fait que la vie, la biographie, c'est raconter des histoires. On se raconte des histoires tout le temps. Avec le père de Georges, justement, qui était l'accompagnateur artistique de Georges. Sur le spectacle, on a eu cette conversation-là. En fait, c'est se raconter une histoire. Et ma famille qui est venue voir le spectacle, eh ben, on en a parlé après. Eux se racontent pas la même histoire que moi. Ils n'ont
Mais
pas
oui.
les mêmes visions. Et l'histoire que je me racontais, petite fille, de ce que j'avais à raconter sur notre sororie, est pas la même que celle quand j'étais adolescente, et pas la même de quand j'ai commencé à écrire le spectacle et à la fin du spectacle. Ou enfin voilà, donc en fait, c'est une multiplicité d'histoires en fait, la biographie, et c'est d'essayer de rendre, pour moi, le travail était là-dessus, c'était essayer de rendre cette multiplicité-là. C'est-à-dire, rendre la multiplicité d'histoires, c'était la meilleure façon de rendre hommage au théâtre et à tout ce que le théâtre nous permet de faire, de prendre plein de pistes différentes. On peut autant faire du drama que du comique, que de la science-fiction. Faire ça, eh ben, c'était être très fidèle au côté autobiographique, puisque enfin, la biographie est une multiplicité
De
d'histoires.
récits, mais oui, mais oui, mais oui.
Donc voilà, après tout ça n'est pas réfléchi, hein. C'est-à-dire que c'est parce que tu me poses la question que je te réponds comme ça,
Oui,
mais
oui.
c'est après coup, quoi.
Mais pourtant, moi, j'ai senti ce travail dans le spectacle. J'ai vu à quel point il était même complètement constitué de ça, en fait. Moi, c'est ça que
Mais
j'ai vu.
complètement, oui,
Oui,
c'en
oui,
est.
oui.
Oui, enfin, je me rends compte que c'est vraiment comme on dit en anglais, le trognon de pomme, le
Oui.
centre, quoi, le cœur de cette pomme de spectacle. Ce serait bizarre, mon spectacle est une pomme, voilà, c'était un autre sujet. Non, non, juste, oui, c'est. Mais en fait, je crois aussi que par rapport à la biographie, enfin, c'est ma vision, là, très, 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 très. Enfin, c'est le jeu qui parle. Je supporte pas la définition, en fait, la définition unique, on va dire. En quoi que ce soit. Enfin, je perds à peu près trois papiers d'identité par an, trois cartes bleues, enfin, tout ce qui pourrait me définir, je le perds. Donc, je le refuse. Et ça, je pense que ça s'est traduit dans tous mes spectacles. Il y a des gens qui ne supportent pas parce qu'ils ont l'impression que je
Oui,
vais pas au bout de
parce
quelque
que
chose
c'est très ouvert.
ou que je, oui, que je suis pas assez radical ou que je fuis quelque chose, mais je crois que c'est fondamentalement ce qui me constitue.
C'est très très intéressant ça, parce que alors pour renvoyer la réflexion vers ce que vivent les jeunes que nous avons dans nos comités de lecture, ils ont parfois l'impression, quand ils parlent de la démarche de l'auteur qui a déposé ce texte dans un livre, ils imaginent que c'est un chemin en ligne droite. Mais ça n'est jamais un chemin en ligne droite non plus. Et recevoir une œuvre écrite, c'est se l'approprier, en tout cas la recevoir vraiment, c'est se l'approprier, se raconter des histoires avec cette matière-là. Le point de départ n'est pas le même que dans vos deux démarches à toutes les deux. Mais là où les choses se retrouvent, c'est que être dans une réception ou une création artistique, c'est jamais un chemin en ligne droite, c'est toujours plein de pistes qu'on prend, qu'on abandonne, qui nous emmènent ailleurs, enfin. Et
Et
cette
une de
idée,
ces preuves de
oui.
multiplicité de pistes, et on en parle dans le spectacle, c'est que bah, ce spectacle, ma sœur s'appelait Rachel, donc ça parle de Rachel, mais ça parle de Jean-Marc. Rachel était Rachel et Jean-Marc, c'est-à-dire qu'elle avait deux identités. Jean-Marc, un homme, et c'était très très sérieux pour elle. Et quand je lui disais, mais bah, sois Jean-Marc, laisse tomber Rachel, mais non, en fait, elle n'était pas schizophrène, c'était pas ça, mais sa conception de la vie était pareille, elle était autant Rachel que Jean-Marc.
Bien, nous allons finir sur cette façon de voir le rapport à notre belle humanité de manière ouverte et créative. Donc c'est un message positif pour tous ceux qui nous écouteront. En tout cas, c'est une façon de dire que l'homme est vraiment un animal de récit, comme l'ont dit un certain nombre de philosophes.
Avant de se quitter, en écoutant l'épisode 2 des chroniques de Marie Astier, l'appel téléphonique de la mer, est-ce que vous voulez peut-être partager avec nous des actualités de votre part, si vous avez des prochaines dates? C'est l'endroit pour les annoncer.
Ah oui, nous, on revient à Grenoble. On joue le 12 et 13 juin. On joue l'épisode 1 et 2 le 12 et le 3 et le 4 le 13, et c'est en lien avec l'institut de formation de soins infirmiers, donc peut-être qu'il faut se rapprocher d'eux si vous voulez venir, mais voilà, nous on est très contents de jouer les 4 épisodes.
Et Catherine?
Alors là en juin, je travaille avec la MC2, avec la compagnie professionnelle de comédiens professionnels issus de l'ESAT de l'Ariste, qui s'appelle l'Ariste, et on fait un grand spectacle avec d'autres groupes aussi, et que je dise pas de bêtises, j'espère que je vais pas dire des bêtises, tout sera sur le site de la MC2, mais c'est le 5 et le 8 juin. Donc on va présenter ce travail là. Après, j'aurais bien aimé venir voir les chroniques Marie, mais toute la semaine du 10 juin on travaille avec des jeunes de Manchester et des jeunes de Grenoble, et on va faire une sortie présentable au public le 15 juin, et on travaille matin, midi et soir. On va pas pouvoir venir. Et le spectacle Back to Reality est repris, mais à Rennes en Bretagne, au printemps, au TNB de Rennes et au CNC à Morlaix. Mais il va revenir dans la région en 25-26 au théâtre de Crawl, normalement. Et peut-être d'autres endroits en aura. Et pour les Parisiens, ça va jouer dans un joli théâtre. Ce n'est pas encore signé, mais c'est fortement possible qu'on va jouer à Paris dans un théâtre que j'aime beaucoup.
Ah oui, voilà. Alors Crawl, ça nous parle, moi en particulier, puisque j'habite juste en face, en face en termes de montagne. Et bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et merci encore pour ce bel entretien, cet échange qui était très intéressant. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, l'épisode 2 des Chroniques de Marie Astier, l'appel téléphonique de la mer.
Allô ? Ah, coucou même. Oui, ça va. Alors, hier... Ah, on a joué au criquet avec mamie. Au croquet ? Je sais pas, tu sais, le truc dans Alice au Pays des Merveilles, là. Ouais, bon, on l'a battu. Non, je peux pas te le passer parce qu'il dort, là. Ouais. On va partir, comme d'hab, après les médicaments d'une heure et demie. Après, c'est pas très grave si avec Olive on dort pas dans la voiture, parce que demain on pourra aller à la piscine et tout, parce qu'on va faire le off que après-demain. Ben non, on n'a pas eu de place pour le in. Genre, apparemment, à la cour d'honneur, si t'es tout au fond, tu vois rien du tout. Non, pas très bien, c'est vrai. Non, mais attends, c'est vachement dur aussi. Vas-y, je te mets au défi de juste penser à prendre des médicaments 7 fois par jour. Hein. Et devant tout le monde, là, à la cantine. Devant tous ceux qui attendent rien pour se moquer. Pardon, mais en plus, je pense que t'as pas de conseils à me donner, vu que toi, t'es même pas capable d'arrêter de fumer. Quoi? Ma vie est en danger. Non, mais c'est nouveau, ça. Attends. Mais si je fais de la dialyse 2 à 3 fois par semaine, je vais pas pouvoir suivre les cours normalement. Ah bah super! Ah bah j'ai commencé à décorer mon nouvel agenda pour rien, quoi. Quoi? Arrête, non, arrête de faire comme si c'était pas grave, là, genre, ouh, j'ai l'embarras du choix, un rein de papa, un rein de maman, on peut choisir. Arrête! C'est relou à la fin!
Ta ta ta! Tout de suite, les questions, les réponses.
Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode 2 des Chroniques de Marie Astier, l'appel téléphonique de la mer, qui a été enregistré à l'UGA en octobre dernier. Nous remercions Marie Astier et Catherine Hargreaves d'avoir été avec nous pour cette émission. Et la fin de l'émission approche déjà, et donc c'est l'heure du point actualité de Théâtre à la page. Déjà, on peut dire que Marie Astier, on est très contente, fait partie du comité de lecture de Théâtre à la page. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, ses chroniques reviendront à l'université Grenoble-Alpes. Donc vous pourrez venir les voir. Un petit peu plus tard, le 7 juin, dans le cadre de notre semaine Tapage, entre deux années de festival, Philippe Gauthier, qui est auteur de la pièce Champ de Mine dans la sélection Théâtre à la page de cette année, se rendra dans les classes partenaires de notre action Page de Théâtre pour échanger avec les élèves sur leur lecture de sa pièce. Et c'est la fin de cette émission de Tap 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 qui est là. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aimerez écouter les prochaines. Si vous voulez réagir, nous poser une question, nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse théâtrealapage@gmail.com et nous vous répondrons avec plaisir. À très bientôt sur la 90.8 ou en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. C'était Marie Bernanos et Élise Roger pour Théâtre à la page.
Et 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Tap,
qui est là?
C'était Théâtre à la page.